Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. En préparant votre interview, je me suis rendu compte que vous aviez reçu le prix du Livre Inter pour votre premier roman, La Voyeuse Interdite, en 1991.
Oui.
Il y a 30 ans.
30 ans.
C'est fou, 30 ans, ça semble...
Hier.
Vous les faites pas.
Merci.
Vous vous souvenez de celle que vous étiez à l'époque et êtes-vous la même personne aujourd'hui ?
Oh, je crois qu'il y a une part de cette personne encore en moi, parce que j'étais fougueuse, intrépide, pas irresponsable, mais très libre. Alors j'espère que je n'ai pas perdu cette liberté dans mon écriture, mais en revanche je savais, j'avais la certitude que c'était ça, que c'était mon chemin.
À 24 ans ?
À 24 ans, mais moi j'écrivais depuis très longtemps en fait. À 8 ans j'ai su que c'était ça, à 16 ans j'ai commencé à écrire des nouvelles, et à 24 ans mon premier roman est publié, et à ce prix du Livre Inter, je suis ici dans ma maison.
Ouais, vous êtes là dans votre maison. Quand vous vous retournez sur ces 30 années d'écriture, vous diriez que le parcours est cohérent ou que vous avez renoncé à certaines choses ?
Non, je ne me suis jamais trahie. J'ai toujours beaucoup travaillé. Je suis une passionnée. J'ai l'impression de construire un édifice qui est aussi un édifice amoureux. Je crois que chacun de mes livres se tienne par la main, que l'un engendre l'autre, qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas surprise en mal, comme disent les Suisses.
Les Suisses, ouais. Et vous diriez à la fin que le succès apaise ?
Oui, le succès apaise, mais vous savez, lorsqu'on écrit, le succès aussi, on l'oublie assez vite, parce que l'entreprise d'écriture est une entreprise ardue et que chaque nouveau roman est un premier roman. En tous les cas, moi j'ai toujours l'impression de remonter sur le ring, d'être cette boxeuse, et je cherche toujours, je suis toujours dans le laboratoire, c'est pour ça que ça continue.
Alors vous remontez en cette rentrée littéraire sur le ring, comme vous dites, avec Satisfaction chez J.C. Lattès. C'est déjà sur plusieurs listes de prix, c'est un roman chaud, charnel, dont le sous-titre est « Les sept carnets de Madame Akli ». C'est le journal intime de cette Madame Akli, une Française mariée à un Algérien qui étouffe et s'ennuie dans sa vie conjugale à Alger dans les années 70. Elle est lassée de son mari et elle va renaître par le désir qu'elle éprouvera pour une femme, la mère d'une copine de son fils. Cette insatisfaction rappelle celle d'une autre héroïne littéraire, Emma, chez Flaubert. Votre Madame Akli est-elle une version moderne de Madame Bovary à Alger ?
Ah oui, peut-être. C'est une femme qui a renoncé. J'ai de l'admiration pour ceux qui renoncent. Je trouve que ce sont des révolutions inertes, froides, mais il faut du courage aussi pour renoncer. Je crois que c'est une femme qui a été déçue parce qu'elle était pleine d'illusions. Elle rencontre son mari en France, il est algérien, ils sont en pleine guerre d'Algérie. Et puis quand il rentre, le pays est indépendant, à reconstruire. Et tout d'un coup, la désillusion politique, la désillusion amoureuse vont se mêler. Parce que je crois que nous sommes pas du tout... nous faisons partie d'un tout, certes de la nature, mais aussi d'un pays, d'une politique, d'une économie, d'un gouvernement. Je crois que la santé mentale d'un peuple dépend de la santé mentale aussi de ceux qui les gouvernent.
Elle tombe dans la dépression et la folie en même temps que l'Algérie s'approche peu à peu de la décennie noire. Vous dites « j'avais envie de montrer comment la santé mentale d'un pays phagocyte la nôtre ». Quoi. C'est quelque chose que vous avez vu chez des Algériens à mesure que le pays partait en vrille, entre guillemets, la santé mentale des gens était affectée.
Mais je crois que l'Algérie souffrait déjà, sortait de ce traumatisme de la colonisation. Coloniser, c'est absorber la culture d'un autre, c'est absorber aussi ses terres, et puis de la séparation. La souffrance, elle était aussi, certes, du côté algérien, mais aussi du côté français, et des amis se sont perdus, des amis se sont déchirés. Il restait des vestiges, c'est aussi le livre des vestiges, les vestiges du Corbusier, les vestiges des immeubles haussmanniens, et les vestiges bien plus lointain des ruines romaines de Tipaza.
Que vous racontez magnifiquement dans le livre.
Cette Algérie est si envoûtante. Et je crois que les années 70, nous avons été les spectateurs passifs et naïfs de la montée de l'extrémisme, de la montée de l'intégrisme. Il y avait déjà des milices, il y avait déjà des gens sur écoute, il y avait comme ça un climat très sournois. Madame Akli a la conscience de ce pays, en fait, sa voix, ses tourments, sa solitude, sa peur, sa violence, retrace bien l'état d'esprit général qui régnait dans les années 70 là-bas.
Vous dites que ce roman n'est pas une autofiction, mais tout de même, vos parents, c'est aussi un couple mixte, avec un père algérien et une mère bretonne, la même chose que dans le livre, puisque Madame Akli est bretonne, il me semble, et lui est algérien. Elle n'arrive pas à se faire d'amis en Algérie dans les années 70. Vous dites que les familles algériennes restent entre elles, les couples mixtes sont mal vus. Il y a un écho avec votre histoire familiale, votre mère avait du mal à s'intégrer quand elle était là-bas, quand vous avez habité là-bas?
Oui, ma mère, heureusement, est à l'inverse de Manakli, mais j'ai beaucoup regardé ces Françaises. Et je les ai beaucoup observées dans leur solitude et dans le rejet. Il y avait un tabou, ce racisme anti-français. Les Françaises sont parties en 62 et quelques Françaises ont fait le chemin inverse. Elles étaient courageuses, elles étaient amoureuses de ce pays, vraiment. C'est ma mère qui m'a fait connaître l'Algérie, le Tassili, le Hogar. Mais je crois qu'elle n'était pas aimée à la fois d'un peuple très viril. Il y avait aussi ça, la sexualité omniprésente. Et quand on est une jeune femme blonde, aux yeux bleus, plutôt sexy, dans les rues, elle n'a pas vécu sa jeunesse comme elle aurait pu la vivre dans les années 70. Mmh. Elle regardait de très loin peut-être la révolution sexuelle, comme un petit peu Madame Aclis. Ce serait la seule ressemblance.
Oui, parce que Madame Aclis est cruelle, homophobe, raciste, oui, elle-même.
Tout l'inverse de ma mère. Mais je crois que, justement, Madame Aclis exprime toute la frustration qui existait à l'époque dans ce pays pour ces femmes-là.
C'est un livre aussi sur la violence du désir, la violence du fantasme, comme souvent chez vous. Madame Aclis est happée par la radicalité de son désir pour une femme, pour la mère, dont je disais, d'une copine de classe de son fils. Un désir sauvage, le désir amoureux, sexuel, c'est toujours forcément quelque chose de violent chez vous.
Non, mais il s'exprime, oui, dans des torrents. Ce sont des torrents d'eau claire, j'espère, et pas trop des torrents de boue. Oui, parce que il dit toujours quelque chose. Moi, c'est vrai que j'ai souvent dit que j'étais une militante, et je le suis. Lorsqu'on a grandi dans la marge, lorsqu'on est un enfant et qu'on a conscience de sa différence, de son homosexualité, ce désir-là, il est plus qu'un désir, il est votre identité. C'est lui qui fait que vous serez exclu dans l'enfance parce que vous n'avez pas les mots pour l'exprimer, dans l'adolescence parce que vous pouvez devenir le paria d'un lycée, et puis à l'âge adulte, il faut le vivre, l'occuper comme on occupe un territoire. Ce désir-là, le vivre est presque politique, c'est presque un acte engagé. Le revendiquer et puis être fier de soi. Je crois que dans la trajectoire de tous les homosexuels, la pire des tragédies est sa propre homophobie. Mmh. On est obligé de passer par ça, hélas.
Par une phase d'homophobie.
Pour
la dépasser.
Pour soi. Oui, oui, mais ce
d'ailleurs,
sont les autres qui vont
l'accueillir. Madame Aclis, elle se déteste elle-même de ressentir cela.
Elle se déteste elle-même et puis elle déteste aussi ce personnage de Bruce. Ce n'est pas une autobiographie, mais le seul personnage autobiographique pourrait être ce garçon-fille,
voilà.
Cette fille-garçon qui se surnomme Bruce parce qu'elle est fan de Bruce Lee et qui va menacer tout d'un coup ce foyer.
Dernière question, Nina Bouraoui. Comment, je sais que vous regardez, que vous suivez l'actualité, comment vous jugez ce début de campagne présidentielle en France où les débats se radicalisent autour de l'identité, de l'immigration, des prénoms aussi? Comment vous regardez ça?
Mais je me sens extrêmement concernée puisque ma mère est française, mon père est algérien, je suis un écrivain français, amoureuse de son enfance algérienne, mais je me sens très française aussi. Mais pour les prénoms, les prénoms,
c'est Charline qui donne un message.
Je suis née avec un prénom, un joli prénom, Yasmina. Il y a 4 ans, je voulais m'appeler Mohamed parce que j'avais quand même un petit problème d'identité. Et après, j'ai choisi Nina. Et je trouve que pourquoi ma mère a tenu vraiment, elle était française et elle est française, et qu'on ait, ma sœur et moi, des prénoms algériens. Parce que ça voulait dire aussi quelque chose de son amour et de son engagement pour son homme. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise Française? Je ne crois pas.
On va demander à Éric Zemmour. Satisfaction de Nina Bouraoui. Merci beaucoup. Très beau livre de cette rentrée littéraire chez Lattès. Merci infiniment et belle journée à vous. France Inter.